Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Isabelle Fallot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une cantatrice.
Oui.
On va parler donc de chant lyrique, sans doute, à l'occasion notamment d'une série de concerts et de ce mois dans notre secteur. Oui. Isabelle Fallot, on vous connaît aussi peut-être certains, en tout cas sur le territoire, pour jouer régulièrement dans les concerts qui sont proposés par Dominique Vostine au couvent de Rocoubeau-Jansac.
Oui, tout à fait.
On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Comment vous vous présenteriez ?
Eh bien, je suis née à Cré, donc je suis une artiste locale qui s'est délocalisée dans sa jeunesse jusqu'à Grenoble et puis Lyon, où j'ai fait mes études supérieures. Après, j'ai vécu dans le sud, à Montpellier. Je fais une carrière lyrique nationale, un petit peu internationale. J'ai chanté à l'étranger quelques fois. J'ai un répertoire un peu éclectique. Parce que je fais pas... Enfin, je fais du classique, hein, mais je fais un peu de toutes les époques. Je me cantonne pas juste musique baroque ou musique romantique. Je vais de la musique renaissance jusqu'au contemporain, ultra contemporain, un petit peu en gros mon parcours.
Comment on s'y met au chant ?
Une passion d'enfance, j'ai toujours aimé chanter et ma grande sœur était chanteuse aussi, donc on était toutes les deux à chanter à la maison. Et puis ma sœur a commencé à prendre des cours à l'âge de 19 ans à Grenoble. Et puis un jour, ma mère me dit « Mais tiens, j'ai vu une petite annonce dans le Crétois, il y a un professeur qui donne des cours à l'école de musique. » Alors on y est allé. Et puis je ne savais absolument pas à quoi m'attendre au niveau du style. Moi, j'aimais la chanson, hein, surtout l'opéra, je n'en avais jamais écouté, je détestais ça. Quand j'en entendais la radio, je zappais. Je trouvais ça ridicule. Et puis le professeur, c'était un chanteur d'opéra. Donc on a fait de l'opéra, il a commencé à me faire des vocalises, à monter dans les aigus. Je savais même pas que j'avais des notes comme ça dans ma voix. Et puis il m'a transmis cette passion-là. C'était une espèce de fou, tout le monde le connaît ici, c'était Aldo Bellucci.
Tout à fait.
Donc,
qui a donné des cours aussi à Die.
Qui a donné des cours à Die. Donc moi je l'ai suivi partout, j'ai pris des cours à Cré, à Die, à Nyons. Pendant 6 ans.
Ah oui, Valréas aussi.
Valréas, exactement. Et puis un beau jour, il m'a mise à la porte, vu que c'était un peu un original. Il ne supportait pas la moindre critique ni le moindre doute. Donc, et puis je pense que c'est ce qui m'a sauvée en fait. Parce que les gens qui sont restés avec lui, bon, il y en a qui ont mal tourné, je crois. Donc j'ai dû poursuivre mon chemin ailleurs et je suis montée à Lyon. Et je suis rentrée au conservatoire et on m'a prise directement en dernière année. Alors, j'en revenais pas, j'ai...
Sauté toutes les classes, quoi.
J'ai sauté toutes les classes. Je pensais pas que j'avais un bon niveau et puis c'était pas mal en fait. Puis bon, au conservatoire, ils ont essayé un peu de tout transformer. Donc là, ça a été un peu plus compliqué, ça m'a... un petit peu ralenti, comment dire. Mais d'un autre côté, j'ai arrêté de grossir la voix, de chanter avec une voix qui n'était pas la mienne.
C'est ça, au niveau méthodologie,
ouais.
C'était radicalement différent. Oui,
radicalement différent. Mmh. Ouais, vraiment. Où j'ai commencé à chanter de la mélodie, du baroque. Donc la tête a commencé à s'ouvrir à d'autres styles. Parce qu'avec Aldo, c'était que du grand opéra 19e, un petit peu 18e. Mais du coup, c'était un petit peu dangereux, surtout pour mon style de voix, qui était pas... J'avais pas une très grande voix. Donc voilà. Et après, j'ai été prise à l'Opéra de Lyon. Au bout d'un an de conservatoire, j'ai été reçue. Ça, c'était une grande fierté. À l'atelier lyrique de l'Opéra. Donc c'était une école, une école où on avait des cours et de chant et de pratique avec des pianistes, beaucoup, beaucoup. Donc on apprenait des rôles et on était inclus dans des spectacles qui étaient dédiés à ces jeunes chanteurs. Donc on a chanté sur la scène de l'opéra, puis sur d'autres scènes à Paris, en tournée à Vichy. Puis un peu de tout, de la musique très contemporaine et puis beaucoup de Mozart. Moi j'ai fait mes armes dans Papagena. Et ma sœur, de fait, avait aussi été prise à l'Opéra de Lyon, mais en pré-troupe. Il y avait plusieurs stades dans cette école. Donc elle était déjà mieux payée. Moi, j'étais payée, c'était déjà pas mal. Mais elle était mieux payée, elle avait le double. Et du coup, on était toutes les deux là. Et c'était vraiment un premier pied dans le métier. Un peu abrupt parce qu'on ne prenait pas des gants avec nous, hein. On n'était pas très tendres. Hein. Donc il y avait beaucoup de concurrence entre les filles. C'était un peu à celle qui piquerait le rôle de l'autre. Donc j'avoue que ça m'a fait beaucoup de mal. Je n'étais pas préparée à ça. Et j'ai toujours été quelqu'un de trop gentil. Hein. On m'a toujours dit, mais toi tu es trop gentil, tu seras dur pour toi dans le métier. C'est un peu vrai. Et donc, je suis restée 2 ans à l'Opéra de Lyon. Et ensuite, j'ai eu un premier bébé. Alors, on m'a dit, oh, ça ne va pas être possible de vous garder. Désolée, ça va être trop compliqué. Vous allez être fatiguée. Puis dans
c'est
le costume,
violent jusqu'au bout, quoi.
Ah, jusqu'au bout, ouais. Dans le costume, non, ça ira pas. Il va falloir passer par des trappes.
Elle consomme jamais avec Papageno dans l'opéra, non ? Il n'y a pas un moment donné où on peut le croire ?
Juste à la fin, oui. Si, si. Mais là, je devais faire la première dame. J'étais trop fière. Et j'avais une promotion. Je devais enfin faire la première dame. Et puis, du coup, c'est jamais arrivé. Et je suis allée tenter ma chance au conservatoire supérieur. Et j'ai été reçue. Donc, j'ai passé encore 3 années au conservatoire supérieur de Lyon. Ensuite, j'ai eu mon prix et puis après, débrouille-toi, quoi. Hein. Faut commencer la carrière.
Alors, une fois qu'on a son prix, on doit se créer sa propre troupe, trouver son propre...
Trouver son chemin, ouais. C'était à l'époque pas très facile parce que, surtout au conservatoire de Lyon, où on était un petit peu moins en vue qu'à Paris. À Paris, il y avait des agents qui venaient assister au prix. Et à Lyon, non, il n'y avait pas d'agent. Donc, un petit peu, peut-être le directeur de l'opéra, il avait entendu parler de nous. Donc, il repérait un peu les gens qui l'intéressaient. Mais ça ne m'a pas concernée, apparemment. Et j'ai eu d'autres propositions, j'ai fait des concerts et tout ça. Non, c'est plutôt par... moi, ma carrière, elle s'est plutôt faite par relation. Donc, j'avais des copains qui me disaient « Oh, mais tu serais super dans tel ensemble vocal. » Donc on m'a fait auditionner pour un ensemble qui s'appelait Les Jeunes Solistes à l'époque, qui était de la musique ultra contemporaine. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en tant que semi-soliste, quoi. Parce que c'était de l'ensemble, mais quand même du 1/2. Et puis, par ailleurs, je faisais déjà un peu de renfort de chœur à l'Opéra de Lyon. J'avais déjà un statut d'intermittent... Donc ça allait, j'étais pas trop inquiète. Et puis après, c'est ma sœur qui m'a un peu aiguillée, qui m'a fait auditionner pour Jérôme Savary. Donc je l'ai remplacée, elle, sur un rôle important.
Vous avez la même voix ?
Pas tout à fait, non. Ma sœur est décédée il y a 4 ans. Et elle était un peu plus... Une voix un peu plus costaud, mezzo, mais c'est vrai qu'on avait un timbre assez, assez proche. Et puis physiquement, on se ressemblait pas mal. Donc, dans les couloirs de l'opéra comique, on nous confondait. C'est qui aujourd'hui ? C'est Isabelle ou c'est Marilyn ? Donc voilà, ça, c'était vraiment une expérience importante et à la fois très difficile. Hein, parce qu'on jouait 6 soirs par semaine. Donc vous imaginez, tous les jours. Moi, j'avais 2 enfants toutes petites et elles habitaient dans le sud, vers Montpellier. Donc, je ne les voyais pas. J'étais un peu déprimée, comment dire. Passer sa journée toute seule, attendre d'aller au théâtre, puis se retrouver voilà, j'attendais beaucoup dans ma loge. Après, l'équipe était sympa, hein, mais voilà, c'était pas vraiment non plus mon univers, quoi. Mais voilà, une expérience intéressante. Et puis par ailleurs, bah, j'ai fait partie de d'autres ensembles vocaux. Pareil, j'ai fait partie d'Accentus et Les Éléments. C'est un ensemble avec lequel je tourne encore pas mal. C'est un ensemble qui est basé à Toulouse, mais qui tourne à l'international, qui est vraiment très, 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 très grand niveau, quoi. Et sinon, moi, j'aime bien les petites formes. Donc, quand j'ai rencontré mon futur époux en 2005, il m'a fait intégrer une petite troupe qui s'appelle Opéra de Poche.
Oui.
À Paris. Et alors là, j'ai trouvé vraiment ma place, je crois, dans ce genre de formule où c'est très familial, très... Il n'y a pas de pression, quoi. Et on se fait vraiment plaisir, on a fait des beaux spectacles. Chacun avait un rôle presque sur mesure ou plusieurs rôles. On était vraiment interchangeables. Enfin, je veux dire, on était polyvalents, quoi. On est toujours, parce qu'elle existe encore, cette troupe. Elle est un petit peu en baisse d'activité parce que le monsieur qui s'en occupe, il commence à se fatiguer un petit peu. Mais on a fait des dizaines de rôles, des dizaines de spectacles qu'on a tournés en Chine. Vraiment, vraiment très intéressant. Où j'ai fait les plus grands progrès vocaux qui pouvaient m'être utiles. Parce que c'est vrai qu'on se forme toute sa vie, hein. On n'y a pas de secret, hein. On n'est pas, c'est pas un jour où on se dit ça y est, je sais chanter, quoi.
Et puis, bien sûr, la voix évolue. On parlera un peu de technique vocale.
Ouais.
Mais aujourd'hui, alors, du coup, qu'est-ce que vous faites ?
Aujourd'hui, je suis soprano, comment dire, lyrique. J'ai moins d'aigus qu'avant. Avant, j'avais vraiment des aigus très faciles. Et c'est vrai qu'en vieillissant ou en changeant de répertoire, j'ai plutôt déplacé ma voix vers le médium et un peu plus grave. Et puis, je me fais vraiment très plaisir en musique baroque. Donc, le programme que je vais faire ce dimanche-là, 9 septembre, à Valcroissant, à 17h, c'est un programme qui me correspond vraiment très bien, puisque c'est pratiquement uniquement du Handel. Donc, musique du 18e, en duo, avec une mezzo-soprano qui est ma grande amie Caroline Champy, qui a une voix merveilleuse et nos deux voix se mélangent parfaitement bien. On est accompagné par un quatuor vraiment exceptionnel avec deux violonistes excellents, une violoncelliste excellente et un claveciniste excellent. Comment dire ?
On ne va pas dire qu'il y en a un qui est mauvais, quoi.
Non, je crois que tout le monde a vraiment un grand niveau. Et c'est moi qui ai choisi le programme, donc c'est vraiment du sur-mesure.
Donc ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt vers ces formules-là que vous vivez de votre musique. Voilà.
Comme beaucoup d'artistes, ouais. En fait, j'ai réalisé que les gens que j'admirais, par exemple, j'adore Vincent Dumestre, qui est un grand chef baroque, mais qui, lui, privilégie vraiment son petit ensemble, qui l'emmène partout dans le monde. Et moi, ça, c'est mon rêve. C'est vraiment comme ça que j'aimerais vivre ma carrière, dans des petites formules familiales.
Est-ce que le nom de Isabelle Fallot se vend bien alors ?
Se vend bien, j'en sais rien.
Non, mais justement, pour partir vers ce genre de, voilà, de formule, à un moment donné, vous n'avez pas cité n'importe qui avec Vincent Dumestre.
Ouais.
Il faut donc peut-être avoir un nom, ou en tout cas un ensemble qui est connu, pour que ça fonctionne.
Oui, en tout cas, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que faut avoir un peu d'ambition, chose que moi, j'ai pas eu assez. Et puis, c'est pas grave parce que, en fait, l'ambition, quand on en a trop et que ça marche pas, on est tellement malheureux, tellement déçu, qu'il vaut mieux revoir un peu à la baisse et faire là où on est heureux, en fait. Parce que j'ai essayé, voilà, d'être dans... J'ai fait des rôles à l'opéra, hein, j'ai pas fait que du Jérôme Savary. Et c'est vrai que il faut trouver sa place. Et c'est ça, peut-être, que je conseillerais aux jeunes artistes, c'est trouver l'endroit où on se sent à sa place. Et c'est pas forcément d'être tout en haut de l'affiche, parce que ça, c'est vraiment une très grande pression et c'est une vie très solitaire qui rend pas forcément heureux. Moi, je crois que mon nom, il circule, hein, les gens me connaissent dans notre milieu, ils savent qui je suis. En tout cas, au niveau de mes collègues, certains chefs me connaissent. J'ai la chance de travailler avec un grand chef baroque qui s'appelle Gabriel Garrido, un Argentin qui a eu vraiment une très grande carrière, qui est maintenant aussi un petit peu sur le déclin parce que il est tombé malade. Du coup, ça a un peu freiné ses ambitions en dehors de sa carrière de prof à Genève. Il avait quand même encore un ensemble Elima qui marchait bien, mais là, il est trop malade maintenant et c'est difficile pour lui de tout assumer. Mais avec lui, j'ai fait un CD. Enfin, il a vraiment, vraiment flashé sur ma voix. Il a adoré mon timbre et il a voulu essayer de me promouvoir. Il m'a dit « Ouais, mais t'es pas ambitieuse, tu fais pas la carrière que tu devrais. Toi, tu devrais être en haut en haut de l'affiche à côté de Maria Cristina Kia. » Très bien. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait un disque avec Maria Cristina Kier. J'ai même avec une autre grande chanteuse que j'adore, qui est Claire Le Filiatre, qui est donc l'égérie de Vincent Dumestre. J'étais pas forcément ridicule à leur côté. Hein. Mais voilà, moi, je pousse pas les choses. Je vais pas enfoncer les portes si elles s'ouvrent pas.
Vous êtes en autre distribution, du coup, sur ces concerts, comme par exemple celui de Valcroissant, etc. C'est un autre travail, celui-là, de se diffuser.
Ouais, un petit peu. Ouais. Maintenant, j'ai un peu ce côté-là aussi où je dois vendre mes concerts. Là, c'est Martine Légo, je la connais. Je lui ai donné des cours de chant, donc elle m'a connue comme ça. Et quand je lui ai fait entendre ce programme, elle m'a dit ah oui, c'est tellement beau. C'était un peu cher pour elle parce qu'on est 6 quand même sur le programme, mais on m'a dit oui, c'est trop beau.
Oui, ça c'est. Puis l'abbaye de Valcroissant est, on va dire, un lieu habitué hein, à la programmation d'événements de musique classique. Mm. Il y en a un deuxième, on peut peut-être le dire tout de suite, de concert après celui-ci de dimanche.
Après celui-ci, donc la semaine d'après. Le samedi 15 septembre à 20h30, je joue avec ma propre compagnie qui s'appelle la compagnie En veux-tu, en voilà, que j'ai créée avec mon mari, Vincent Billier. Et nous jouons donc un petit opéra de Donizetti qui s'appelle Rita. Rita ou une femme et deux hommes, ou Rita ou le mari battu. Il y a plusieurs Donizetti à donner différentes appellations à son petit opéra qui dure une heure.
Le mari battu, c'est le vôtre ?
Oui, il se trouve que j'ai deux maris dans l'histoire. Un que je croyais noyé et qui lui aussi me croyait morte dans un incendie. Donc je me suis remariée, hein, naïvement, avec un jeune homme un peu naïf. Et comme j'étais battue par mon premier mari, je me suis dit je vais pas me laisser avoir une deuxième fois. Je vais prendre les devants et c'est moi qui vais cogner. Donc, elle le dit, tous les 8 jours, clic-clac, une petite baffe.
Excellent.
Non, c'est très drôle. Et quand l'autre mari revient pour chercher l'acte de décès de sa femme, il tombe nez à nez. Et au début, ils ne veulent pas le croire. Et c'est l'horreur pour eux de retrouver l'autre. Mais l'autre mari qui est battu, le petit bébé, est bien content de retrouver l'autre. Parce que lui, comme ça, il va pouvoir partir. Il n'en peut plus d'être battu. Ça le rend très malheureux. Donc lui, il essaie de se débarrasser de sa femme. Et le premier mari, il est hors de question qu'il la récupère. Donc elle est un peu catastrophée. Elle veut pas être veuve de deux maris, comme elle dit. Donc les deux, ils se débrouillent pour perdre leur femme au jeu. Ils tirent à la courte paille. Alors vraiment, il n'y en a aucun des deux qui veut la coltiner parce qu'elle est devenue un peu mégère, quoi, un peu méchante. Elle se donne des airs de méchante. En vrai, elle n'est pas vraiment. Donc finalement, bon, je ne vous dis pas la fin parce que bon, mais ça se termine bien. Et en fait, c'est assez comique. Il y a beaucoup de théâtre dans ce petit opéra. C'est vraiment un opéra comique, c'est-à-dire la définition où c'est un mélange de théâtre et de chant. Et on est trois, donc trois chanteurs, donc mon mari baryton, et puis un ténor qui s'appelle Samuel Odos, qui vient d'Avignon, qui est vraiment excellent, qui chante bien, qui est drôle. Et puis on est accompagné non pas par ni un orchestre ni un piano. Cette année, on a décidé d'être accompagné par un accordéon. D'abord, ça a plusieurs avantages parce que c'est très mobile.
Oui, puis on dit que c'est un petit orchestre portatif.
Voilà,
hein.
C'est un petit piano, c'est le piano du pauvre. Mais c'est tellement joli. Et donc on a fait appel à une accordéoniste de Lyon qui s'appelle Mélanie Brégan. Donc qui est pareil, prix de Conservatoire supérieur de Paris. Grand niveau aussi. Et en fait, l'idée, c'était que l'histoire se passe dans une guinguette. C'est pour ça qu'on a appelé l'opéra aux guinguettes. Ça se passe donc sur l'île de la Jatte. Et Loa, Rita, elle a racheté une auberge. Et donc, on imagine très bien que le samedi et le dimanche, il y a des musiciens qui viennent pour faire danser les gens. Donc c'est pour ça justifie la présence de l'accordéoniste. Et l'idée un peu originale de Vincent qui a fait la mise en scène, c'est d'inclure des chansons Froufrou, Les Blés d'Or, Nini Potchien, des chansons début 20e ou fin 19e, hein, parce qu'il y a de chansons d'Aristide Bruand. Et les gens adorent ça en fait. Mmh. Moi je dis aux gens, bah, allez chanter avec nous. Et ils se mettent à chanter, c'est trop drôle. Voilà, donc c'est le petit côté, le petit plus.
L'accordéon dans la musique classique, c'est pas quelque chose de régulier.
Ouais, il y en a plus qu'on ne le croit, hein, ouais. Parce que c'est des gens qui ont une vraie formation classique.
Mais oui, donc, là j'entends bien.
Ouais. Ouais, qui sont capables de réduire un orchestre. Donc elle a fait ses propres arrangements, elle a réécrit toute la partition.
Ah voilà.
Elle aurait tout réécrit à partir du chant piano. Et puis elle a écouté les versions, donc voilà, elle a réorchestré pour elle en fait. Et ça, vraiment, c'est super chouette.
Se troverà nel
On va aller un peu plus loin dans la technique vocale, Isabelle Fallot, parce que c'est toujours un truc que nous aimons bien faire à RDIWA. Il y a un travail, effectivement, qui a été fait depuis de nombreuses années. Tout à l'heure, vous parliez de cette première expérience avec ce premier grand chef, Aldo, justement, qui vous poussait, au point peut-être de casser sa voix. En fait, c'est ça que j'ai cru entendre.
Ouais.
Bon, jusqu'où on va? Comment est-ce que vous travaillez? Vous faut-il une hygiène de vie particulière, des conditions particulières?
Alors, quand je veux être au top, comme c'est le cas quand j'ai des récitals importants ou des concerts, il faut que je me discipline et que je chante à peu près tous les jours 2 heures pour que ma technique soit nickel, la soufflerie en place, que ça réponde à tout.
Et vous chantez quoi? Toujours le même truc ou...
Ah bah non, je chante selon ce que j'ai à chanter.
Ah oui.
Hier par exemple, j'ai chanté 3 heures, j'ai filé, c'est-à-dire j'ai enchaîné tout mon programme de dimanche, tous mes duos et mes airs de Handel, Vivaldi, Purcell, Monteverdi, pour voir si je tiens dans la distance, parce que il faut de l'endurance en fait.
Oui, le récital va vraiment faire 3 heures.
Non, le récital, il dure 1h15. Mais moi, j'enregistre tout, par exemple. Je suis maintenant mon propre coach. J'ai plus de prof de chant, ou très peu. Je prends quelques cours par an, mais avec mon mari, on se surveille, si vous voulez. Parce que, voilà, on a la même technique. On a évolué vraiment en même temps. On s'est beaucoup, beaucoup apporté tous les deux. Maintenant, on le fait un peu moins, mais ça va. On sait que si vraiment il y en a un qui fait une grosse bêtise, l'autre va lui dire. Pas toujours avec des gants, certes, mais... Et puis, de temps en temps, quand je me dis là, je me sens un peu paumée, je vais à Lyon, je prends un cours ou deux. Et ça me fait du bien, ça me recadre un peu. Voilà, mais sinon, moi, je m'enregistre. J'écoute tout ce que je fais, j'enregistre mon morceau, je chante, hop, je le réécoute juste derrière et je corrige. Je note sur ma partition, tiens là, c'est trop bas, tiens là, ça manque un peu de lié, de phrasé. Donc, je suis à la fois mon propre chef d'orchestre. C'est ce qu'on m'avait dit au conservatoire, il faut que tu apprennes à devenir ton propre chef d'orchestre. Tu peux pas toujours dépendre de quelqu'un. Et c'est vrai. Parce que d'abord, ça coûte très cher de se faire accompagner. Alors quand on est au conservatoire, on est un peu comme un bébé ou un coq en pâte, on est archi entouré, on doit travailler certes, mais il y a toujours quelqu'un pour vous dire attention, tu vas pas au bon endroit. Quand on se retrouve tout seul, c'est ça qui est un peu dur, je trouve, pour un jeune chanteur, c'est qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Ça coûte très cher de se faire accompagner, c'est plus de 50 euros de l'heure, en tout cas dans les grandes villes, hein. Ici, un peu moins, mais quand même, c'est un budget. Voilà, il faut apprendre à être autonome assez rapidement. Et je trouve que de s'enregistrer, c'est la meilleure école. Parce qu'il n'y a pas de... À moins d'être très complaisant avec soi-même, ce que je ne suis pas, moi, je me passe rien, quoi. Je suis exigeante, donc il faut que ce soit parfait, quoi.
Et puis après, il faut faire attention à certaines pratiques.
Oui, il faut faire attention. Faut pas, par exemple, aller hurler dans un concert de pop, moi ça je peux pas, c'est pas possible.
C'est toujours un petit ouais, un applaudissement du bout des doigts.
Ouais, ou je vais hurler en boîte à ouais, je vais faire ça, mais ouais. Je vais jamais hurler comme des gens qui hurlent et qui se cassent la voix, il y en a plein qui disent « j'étais au match de foot, j'ai plus de voix », ça je peux pas.
Donc là, c'est plutôt le moment de claquer une vocalise, ça va être sympa.
Moi je vais faire une petite voix de tête, une petite vocalise, mais rien de plus quoi. En plus je sais que j'ai une voix fragile, donc j'ai jamais eu une voix tonitruante, donc vraiment, faut que je fasse très attention. Et à ce que je mange, et à quelle heure je me couche après le repas. Voilà, tout ça, c'est important.
Ouais.
Je ne peux pas manger et me coucher juste derrière. Sinon, on dit on a un peu d'acidité qui remonte et ça brûle les cordes vocales. Ça n'arrive pas à tous les chanteurs, hein, mais chacun se connaît, quoi. Ou pas dormir assez. Par exemple, là, je n'ai pas dormi assez hier soir. J'ai fait de la couture et j'ai été vilaine. Et ce matin, je le sens. J'ai la voix un peu éraillée. J'ai pas assez dormi.
Donc... C'est bien pour la radio, les voix éraillées.
Ah ouais, pour une chanteuse lyrique, c'est génial.
Non mais on sent que du coup, vous pouvez descendre très bas.
Ouais, et d'ailleurs les gens me disent, mais t'es sûr que t'es soprano? L'autre fois j'ai fait un concert, on m'a dit, non mais vous êtes mezzo, hein. Non, non, je vous assure, je suis soprano.
Non, on fait pas toujours la reine de la nuit, quoi.
Ah ben, je peux plus le faire depuis bien longtemps, je vous rassure. Ouais.
Du coup, c'est quand même une vie assez astreignante, finalement.
Bon, astreignante. Quand on est passionné, franchement, ça coûte pas beaucoup. Ouais.
Non, ça ressemble à la vie d'un sportif, enfin.
Exactement, ouais. D'ailleurs, faut faire du sport pour être chanteur. Vraiment. Aussi. Ouais. Faut avoir une bonne soufflerie. Si vous êtes essoufflé, parce qu'en scène, faut pas croire, mais on court. Hein. Il y a des metteurs en scène qui vous font courir de partout, sauter en l'air. Et même agiter les bras comme ça, vous voyez, de haut en bas comme ça, ben faites ça en chantant NR et franchement, c'est très essoufflant. Donc, il faut...
Et puis en plus, les phrases sont dictées sur la partition, on ne peut respirer qu'à un moment donné.
Eh ben, parfois. Souvent, ouais. Souvent, c'est induit, la respiration. Après, chacun se débrouille un peu, mais... Puis il y a des gens qui ont une capacité respiratoire bien supérieure à d'autres. Moi, je n'ai pas une capacité énorme. Donc, je sais qu'il faut que je me ménage à certains endroits. Si je vais m'essouffler, je ne tiendrai pas ma phrase. Donc voilà, il faut faire du cardio-training. Ouais, c'est vraiment une discipline complète.
D'autant plus complète que là, vous l'abordiez tout à l'heure, l'opéra, effectivement, ou les formules que vous êtes en train de proposer, impliquent de faire aussi du théâtre. Et ouais. Ça, on le voit toujours. Et on l'oublie aussi. C'est-à-dire que les formations de chant ne sont pas uniquement pour chanter droit comme un i.
Ouais.
Et donc là, c'est quoi? C'est des formations de théâtre en plus? Ou ça vient par le texte, finalement, petit à petit? Bah, ces opéras sont comme ça, ils sont mis en scène de cette manière.
Y a plusieurs moyens. Moi, je pense que des cours de théâtre, c'est vraiment important.
Et vous en avez fait ?
J'en ai fait. D'abord, j'ai eu mes premières expériences ici avec Jacques Coutureau. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ah bah, bien sûr.
Bien sûr, vous étiez déjà là. Vous êtes jeune, mais...
Je l'ai connu même quand son théâtre était à la place de la mairie de Dix.
Ah oui. Mmh. Ah oui. Ah, moi, j'ai adoré cet homme. Donc, c'était première expérience quand j'étais encore avec Aldo. Donc, on ne peut pas dire que c'était du théâtre pur, mais déjà, c'était une première façon d'être guidée. Mais j'étais vraiment assez coincée hein, à l'époque. Je n'osais pas trop me lâcher. Et puis, quand j'étais au conservatoire de Lyon, au conservatoire régional, je me suis dit, je peux pas, il n'y avait pas de cours de théâtre. Je me suis dit, il me faut des cours de théâtre. Donc, je me suis inscrite dans une maison pour tous, hein. Et je suis tombée sur une bonne prof, très sympa, qui m'a fait du bien. On a fait du Raymond Queneau, j'ai fait la petite vieille, enfin je me suis bien amusée. Elle allait assez loin quand même dans le travail d'acteur, je trouvais que c'était intéressant. Après j'ai fait du théâtre directement sur scène à l'Opéra de Lyon, où on m'a fait faire des rôles, pas trop parler mais surtout chanter. Donc c'était aussi assez intéressant parce que j'avais une metteuse en scène qui s'appelait Myriam Tanan, qui était vraiment intéressante, qui était vraiment une directrice d'acteurs, chose que c'est pas toujours le cas. Les metteurs en scène ne sont pas toujours directeurs d'acteurs. Après, au conservatoire supérieur, j'avais des cours de théâtre. Mais c'était plus de l'impro, on n'a jamais vraiment incarné... un rôle de Molière, par exemple. On n'a jamais appris une scène de Molière. Chose que j'aurais bien aimé. Mais par contre, on avait des scènes lyriques, ce qu'on appelait à l'époque travail d'un rôle mis en scène. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis j'adorais le prof, donc je pense que j'ai fait beaucoup de progrès avec lui. Et ensuite, j'ai travaillé avec l'équipe de Jérôme Savary. Alors là, ça a fini de m'aguerrir parce que là, il fallait vraiment se lâcher. Au début, j'étais coincée, je devais faire la baronne, n'est-ce pas? Au début, j'arrivais pas à me lâcher, donc je me suis fait un peu engueuler. Et puis, il y a une ancienne chanteuse qui était dans la salle et qui m'a prise à part. Elle m'a emmenée dans une salle. Elle m'a dit, viens, il faut que je te coache là. Et à partir de là, à partir de là, j'ai réussi à me lâcher, à jouer la baronne, un peu effarouchée, un peu. Parce qu'il fallait quand même avoir de l'abattage, là, hein, ça rigolait plus.
Cette question de l'improvisation là, dont vous parliez tout à l'heure, ouais. En fait, finalement, c'est ça qu'on attend plus du chanteur, c'est d'incarner à la fois ce qu'il chante sans être forcément dans une posture théâtrale jouée, quoi. Ce serait d'être, là, si on est une baronne, bon, bah oui, on y met un peu du sien pour que ça ressemble à quelque chose. Si ouais. on est un vilain policier, on va faire, voilà.
Ouais. Tout à fait.
C'est deux exemples que je n'ai pas fait exprès de prendre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je pensais à un autre ouais. opéra.
Parfois, ça nous colle à la peau, un rôle, et puis parfois, c'est pas pour soi. Donc, il faut vraiment faire de la création, quoi. Mais après, des chanteurs doués, il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a quand même plein qui sont vraiment coincés. Et c'est pas facile d'arriver surtout à les faire parler, en fait. Parce que en opérette ou en opéra comique, il y a beaucoup de textes. Et nous, avec Vincent, quand on engage des gens, on les engage surtout pour le chant. On n'ose pas trop encore leur faire passer une audition de théâtre, mais je crois qu'on va commencer à le faire. Parce qu'on a eu un peu trop de déconvenues, si on veut dire. Des fois, on s'arrache un peu les cheveux, hein, de dire mais c'est pas possible, quoi, ça marchera jamais. Trop coincé ou trop godiche ou trop pas naturel, quoi. Bon, soit des gens sont capables d'évoluer très vite, comme par exemple le ténor là qu'on a sur Rita. Au début, je vous avoue qu'il nous a fait un peu peur parce qu'il était un peu coincé. Il nous dit « j'ai jamais vraiment fait de théâtre ». Jusqu'au dernier moment, il avait du mal avec la mémoire du texte, qui n'est pas du tout la même que la mémoire chantée. Il n'y a pas de canevas, c'est pas la même chose, quoi.
Mais en fait,
trou de mémoire, pouf.
Voilà, à moins d'avoir fait un conservatoire supérieur, a priori, en sortant du conservatoire, on n'a pas touché à la partie théâtrale.
Ben, très peu. Hein.
C'est quand même étonnant. Hein.
Très peu, je vous avoue. Ça, c'est une lacune. Après, hein, je vous dis, moi, j'ai eu mes prix il y a quand même un certain nombre d'années, et je crois que ça a changé un peu. Je pense que ça a changé un petit peu, mais quand même. Après, tous les chanteurs vous diront, il n'y a rien de tel que l'expérience, que la scène, hein. Il n'y a que ça, hein. C'est pas non plus dans les conservatoires qu'on apprend tout. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut laisser la chance aux jeunes de faire leurs expériences. Donc de les faire commencer par des petits rôles où ils vont prendre leur marque et puis pas les balancer tout de suite sur des grands rôles, comme c'est souvent le cas en fait. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème avec ce métier, c'est qu'on prend les gens comme des mouchoirs et on les jette dès qu'ils sont usés.
On repère une voix tout d'un coup, hop, ouais. C'est parti. Et puis,
Exactement. C'est vraiment... Ouais. C'est le problème des agences qui essayent de dégoter des gens exceptionnels comme Julie Fuchs. Ça arrive. Évidemment, il y en a chaque année, il y en a des gens qui sortent du lot. Mais s'ils n'ont pas les reins solides, c'est des gens dont on n'entend plus parler au bout de quelques années. Et ça arrive très souvent. Moi, je me dis, tiens, au fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle ou lui? Ils se sont soit cassés les dents, soit ils en ont eu ras-le-bol parce que c'est trop dur. Ils n'ont plus de vie, ces gens-là, quand ils commencent une carrière, c'est tout de suite, ils ne sont plus jamais chez eux, quoi. Donc c'est tout ou rien dans ce métier maintenant. Il n'y a plus de troupe. La chance que j'ai eue, moi, c'est quand même d'être à l'Opéra de Lyon. Ma sœur encore plus que moi, parce qu'elle y est restée 5 ans, où elle a vraiment fait ses armes. Hein. C'était génial. Hein. C'était dur parce que l'ambiance n'était pas toujours top. Les directeurs, ils mettaient la pression. Mais ça allait crescendo. Ma sœur, elle a fait des rôles assez modestes au départ. Et puis elle a fini avec des grands rôles. C'était super, hein, franchement.
En parlant de rôles, lesquels vous ont marqué?
J'ai beaucoup aimé chanter à l'Opéra de Toulon. J'ai fait Vanda dans La Grande Duchesse d'Offenbach. Ça, c'était vraiment une expérience très sympa parce qu'il y avait des chanteurs très renommés et vraiment bienveillants, gentils. J'ai pas eu trop la pression, je me suis amusée, c'était vraiment, vraiment super chouette. Après, vocalement, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Moi, ce que j'ai adoré chanter récemment, là, c'était La Comtesse dans Les Noces de Figaro, que j'ai faite en toute modestie à Cré, avec Opéra et Château, donc à la Tour de Cré. C'est un rôle qui m'allait assez bien.
Et il y a des rôles que vous avez refusés, toujours. Et pourquoi ?
La diva qui se permet de refuser. Oh, non,
non mais parce qu'on pourrait ne pas aimer incarner, par exemple, un méchant. Hein, je connais des gens qui n'incarnent pas les méchants.
Ah ouais, non, moi j'ai bien changé là-dessus. Mais non, ça m'amuse beaucoup plus de jouer une méchante, une pimbèche, qu'une jeune première. Franchement, j'en ai soupé des jeunes premières. Genre Micaela dans Carmen, c'est un rôle qui est vraiment pas drôle, quoi, en fait.
Bah voilà un rôle que vous pourriez refuser maintenant.
Voilà, moi, je... si c'était super bien payé, je pourrais pas me permettre de refuser. Mais c'est pas un rôle dans lequel je me fais vraiment plaisir, ni vocalement, ni scéniquement, pour l'avoir fait plusieurs fois. Là, je viens de refuser d'aller en Chine, parce que j'avais pas envie de... Pourtant, c'est un rôle que j'aimais bien, c'était Eurydice dans Orfeo de Gluck. Mais c'est... Bon, voilà, il se trouve que j'avais pas envie d'y aller. Donc, pour une fois, je me suis permise de refuser quelque chose. Il se trouve qu'avec Dominique Vostine, on fait le Messie de Handel fin octobre. Et ça tombait que je serais rentrée, que j'aurais été vraiment épuisée. Donc, j'ai préféré annuler. Voilà, mais sinon, non, les rôles de méchante, c'est très drôle à faire. Ou les rôles de marâtre ou... C'est vraiment amusant.
C'est souvent d'ailleurs au niveau vocal des choses assez compliquées, des gens qui sont un peu fous, donc du coup qui vont passer d'un timbre à l'autre très rapidement.
Mais j'aime bien jouer les folles. Voilà. Je suis un peu faux folle moi-même.
Ah bon.
Mais ouais. Mais j'adore jouer la folie. C'est quelque chose où on peut vraiment trouver des terrains de jeu mais extraordinaires, quoi. Où j'aime bien jouer les filles bourrées, par exemple. Donc non, c'est drôle, j'aime bien m'amuser.
Tout à l'heure, vous avez cité des disques, vous en avez fait beaucoup ?
J'en ai fait 3 ou 4.
Et ça marche ?
Oh, ça marche, je ne sais pas, je ne suis pas dans les arcanes de des producteurs. C'est toujours, j'ai fait des choses pas sous des grands labels. Hein. Mm-hmm. Après...
Et ça sert ?
Oui, ça sert, ça peut servir si on sait rebondir, ça sert. Moi, évidemment, je ne suis pas du tout carriériste, donc je ne suis pas allée me vanter d'avoir enregistré avec Garrido. Mais j'aurais pu, parce que c'est quand même un joli disque, je suis un petit peu mise en valeur quand même. Mais comme je préfère pas aller vers l'échec, alors j'ai eu des échecs, enfin, vous voyez, par exemple... On sort du conservatoire, on se dit « Bon, alors je vais essayer d'aller auditionner dans tous les opéras de France. » J'ai écrit à tous les opéras de France, sans agent, n'est-ce pas ? Et j'ai quand même réussi à passer une dizaine d'auditions. Et ça a été très dur parce que je m'en suis pris plein la tête. Mais vraiment, on m'a envoyé des choses... ouf. Alors, d'un autre côté, ça m'a quand même permis d'avoir le rôle de Vanda, par exemple. À Toulon, le directeur, il a vraiment... Pendant l'audition, c'est le seul le directeur de salle qui m'a parlé pendant l'audition, qui m'a dit « Mais quel timbre merveilleux !»« Chantez-moi autre chose enfin, !» c'est le rêve, hein, une audition comme ça. Et puis, un mois après, j'avais un rôle. Donc, je me suis dit « Si ça pouvait être tout le temps comme ça, ce serait formidable !» Mais la plupart du temps, c'était non, voix pas assez puissante ou trop timide sur scène. Parce que moi, en audition, il faut dire, j'étais pas spécialement à l'aise, quoi. Donc je pouvais être très bonne comme complètement nulle. Ça m'est arrivé d'être vraiment mais gourde, quoi. Et ça, il y a plein de chanteurs qui le disent, même des gens qui ont fait une très belle carrière, qui disent qu'ils peuvent être vraiment nuls en audition.
On a l'impression de tout recommencer à chaque fois.
On a 5 minutes pour faire toutes ces preuves, quoi. C'est horrible. On descend du train, on a peut-être 1 heure ou 2 pour se préparer. on sait jamais si on a fait le bon choix de morceau. Ouais, je sais pas. Moi, je me sentais jetée dans la fosse aux lions. Et puis, il arrive parfois qu'on fasse une audition où il y a plein de gens avant vous. J'avais le malheur d'écouter d'autres gens. Je me disais, oh non, mais moi, je suis nulle à côté. J'étais comme ça. J'étais... Bon, maintenant, je travaille avec un psy. Enfin, j'ai compris qu'il fallait travailler là-dessus. Parce qu'en fait, c'est qu'une histoire de confiance en soi, de regard sur soi-même. Et ça, après, je sais, les grands chanteurs, ils ont tous un psy et un coach mental. C'est très important. Moi, je suis quelqu'un de sensible, donc c'est à la fois un atout, parce que les gens, le public le ressent. Et j'arrive à transmettre cette sensibilité. Et à chaque fois que je fais un concert, les gens me disent mais quelle émotion, mais tu nous fais pleurer, tu nous donnes des frissons. Et ben ça, moi, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Après, je suis trop sensible et les directeurs, ils ont dit, mais on peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Elle est trop émotive. Voilà, moi, je passais pas toujours le cap des auditions, mais par contre, après, quand j'étais en scène, je maîtrisais beaucoup mieux qu'en audition. Ce qui est normal, parce qu'on est un mois en répète. Franchement, on prend confiance, il n'y a aucun souci. Mais l'audition, c'est, tout le monde vous le dira, c'est un monde à part. Quoi. C'est, voilà, c'est le ring.
Un bon portrait de Isabelle Fallot sur RDO. On arrive au terme d'ailleurs de cette émission. Peut-être pour terminer, on va reciter déjà ces deux concerts, hein, le 9 et puis j'ai oublié déjà la date du suivant, le 15. Il a été dit un autre au mois d'octobre, un autre rendez-vous. Oui. Bon, on pourrait citer quelques concerts comme ça, puis pourquoi pas un site internet peut-être où les retrouver.
Oui, alors moi j'ai un site perso, bon, isabellefallot.com. Donc il y a mes dates, il faut que je les mette un peu à jour. Et sinon, avec la compagnie, on a un site qui s'appelle En veux-tu, en voilà, voilà, voixla.com. Pareil, il y a les dates plutôt des spectacles de la compagnie, il n'y a pas forcément mes dates à moi. Voilà, et puis sur YouTube, vous tapez mon nom, j'ai plusieurs posts. Donc, prochain concert le 9 à Valcroissant, 9 septembre à 17h et non pas à 17h30. Il y a eu un peu quiproquo, plusieurs annonces. Donc, Martine m'a dit, essaie de corriger le tir et de dire que c'est à 17h à l'abbaye de Valcroissant. Donc, un concert baroque, des duos, des solos de Handel et Monteverdi, Purcell, Vivaldi, avec un quatuor, cordes et clavecin. Le 15 septembre à 20h30 dans la cour du monastère de Sainte-Croix, dans le cadre des fêtes du patrimoine. C'est quand même 14€ l'entrée, mais je pense que ça les vaut. Alors un jour, on m'a dit, oh, c'est cher quand même. Ben, je dis non, ça les vaut. Franchement, c'est pas plus cher qu'une pizza. Et je pense que des gens qui ont fait presque 15 ans d'études, ça, c'est pas du vol, quoi. Puis on a quand même du mal à se payer dans ce métier, donc voilà, si vous voulez nous soutenir, venez nous voir.
Ça c'est pour l'opéra, hein.
Ça c'est pour l'opéra de poche qui s'appelle Rita, voilà. Une petite opéra vraiment sympa. Si vous connaissez pas l'opéra, c'est une bonne manière de s'initier, parce qu'il y a vraiment aucune difficulté, c'est tout en français, et une de nos grandes qualités, c'est qu'on nous comprend quand on chante, hein, contrairement à certains. Dans les grandes maisons, on est obligé d'avoir des surtitrages, même en français. Eh bien, je vous assure que pour nous, ce n'est pas la peine. On nous comprend.
Et fin octobre, alors, au couvent,
fin octobre, alors là, c'est un gros, gros rendez-vous. Un gros pari avec Dominique Vostin. On monte le Messie de Handel avec un orchestre et un chœur. De Nancy, qui s'appelle le GAM, Gradus ad Musicam. Dirigé par François Leger. C'est des gens avec lesquels on avait travaillé il y a 25 ans sur Aïda. Les gens s'en souviennent encore, je pense. On avait fait Aïda, des extraits d'Aïda à la cathédrale de Die. Il y avait 900 places, c'était la folie douce. C'était magnifique, j'ai retrouvé la cassette là, je l'ai réécoutée. Ah, c'était magnifique. Et donc, Dominique a voulu faire revenir ces gens qui avaient été très heureux à l'époque de connaître la région et d'être accueillis si bien. Donc voilà, on monte le Messie de Handel avec quatre solistes, dont mon mari et moi, et deux solistes qui viennent de Nancy, et puis donc le chœur et l'orchestre de Nancy. Donc c'est un gros pari et deux dates, une à Recoubeau, mais c'est déjà complet, donc Dominique est déjà en train de faire des listes d'attente, et j'espère qu'il les enverra à Cré. Donc ça se déroule le 27 et le 28 octobre, 27 c'est à Recoubeau, le soir à 20h, je sais plus quelle heure, faut vérifier.
Bon, mais puisque c'est complet.
C'est complet, mais Dominique est très fier que ce soit complet. Et le lendemain, donc, c'est à l'église de Cré à 18h, je crois, faut que je vérifie les horaires aussi. Donc là, il va falloir réserver hein, pour... parce que ça va être, je pense, ça va être plein. Donc, si les gens m'écoutent, pensez à réserver. On va, c'est pas encore mis en place, mais on va mettre une réservation sur le site. En veux-tu, en voilà. On va faire des paiements en ligne.
Et avec un projet aussi gros, alors va-t-il partir ailleurs encore ?
Vous allez ce projet-là ? Ouais. Non. Non, je vous assure que non.
Ça suffit. Deux dates, c'est bon.
Si, si. Ah si. Je vous dis une bêtise parce qu'ils nous ont appelé à. Dans la région de Nancy. Donc, on va faire deux dates en novembre. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Donc là, je ne m'occuperai pas de la pub. Ça va être que du bonheur. Voilà. Mais là, il faut que je m'acharne pour remplir Cré. Hein.
Voilà. Et ben, bon courage. Voilà, auditrice, auditeur, vous pouvez réserver au moins ce concert de Cré. Isabelle Fallot, merci d'être passée.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et puis, à la prochaine. Quand
à
vous
la
voulez.
Prochaine. Merci.
Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.